RCF.
Savoir trouver un ami, on sait, c'est important d'être soutenu, d'être accompagné quand on en a besoin. Et c'est ce que fait l'association T'as un ami. On va en parler aujourd'hui dans cette émission Tout un monde avec mes trois invités. Jean-Jacques Derosio, bonjour.
Bonjour, monsieur Manfroy.
Vous êtes le président et fondateur de cette association T'as un ami. Sœur Marie-Josée Pierru, bonjour.
Oui, bonjour.
Et Anne-Marie Vernet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux bénévoles dans l'association T'as un ami. Alors, Anne, vous nous parlerez donc de ce que vous vivez dans l'accompagnement d'une personne isolée avec votre chien Ulysse. On va voir, il n'y a pas que cette personne que vous accompagnez quand vous allez les rencontrer. Et puis vous, sœur Marie-Josée, vous coordonnez un petit peu au sein d'un EHPAD justement ces personnes qui peuvent peut-être être soutenues et accompagnées par T'as un ami. Donc vous nous parlerez aussi de comment ça se passe au niveau de cet accompagnement. Jean-Jacques Derosio, d'abord je vais me tourner vers vous. T'as un ami, vous étiez venu nous en parler dans les tout débuts de l'association. On était dans la jeunesse du projet. Mmh. Vous veniez de déposer les statuts de l'association en préfecture. Comment ça s'est développé depuis 2 ans, T'as un ami?
Alors depuis 2 ans, aujourd'hui on a à peu près 2 ans et demi, T'as un ami s'est développé assez rapidement sur plusieurs aspects. D'abord par son nombre de bénévoles, puisque nous sommes plus de 350 bénévoles aujourd'hui en France. Donc on s'est développé initialement sur Lille et sur sa métropole, mais on a aussi créé des antennes sur diverses villes du Nord-Pas-de-Calais, Béthune pour le Pas-de-Calais, mais aussi sur le Nord, Saint-Amand-les-Eaux, Valenciennes. On est aussi fortement présent à Villeneuve-d'Ascq. Et on continue effectivement son développement progressivement en France, puisque nous sommes présents à Paris, Chambéry, Toulouse. Nous sommes dans le Var. Et nous sommes aussi sur Belfort. Nous continuons effectivement aujourd'hui à ouvrir quasiment une ville par an. Et nous comptons à peu près 70 établissements médicalisés. Et nous suivons aussi les personnes à domicile, puisque le domicile est aussi effectivement un secteur où la solitude sévit fortement.
Alors peut-être vous pouvez nous rappeler quel a été votre souhait en créant T'as un ami, de quel constat vous êtes parti pour créer cette association?
Bien sûr. Alors quand on a créé T'as un ami, le constat était que le monde de la solitude était omniprésent et qu'il n'y avait pas ou peu de bénévoles qui rendaient visite à une personne isolée avec une régularité. Donc l'objet de l'association, c'est de former des binômes, un ami bénévole ou une amie bénévole avec une personne isolée, avec un objectif de rencontre hebdomadaire. Aussi, un objectif essentiel, c'est que ces rencontres permettent à la personne isolée de sortir de son isolement parce que elle est très attachée, elle devient très attachée à cette relation amicale avec son ami bénévole.
Donc voilà, ça c'était les débuts de votre association. Alors, T'as un ami a fait aussi des petits, puisque par la suite vous avez créé aussi T'as un rêve. Alors c'est quoi T'as un rêve?
Alors tout à fait. Alors quand on a voulu effectivement travailler sur la solitude et puis accompagner ces personnes de tous âges, puisqu'on a des personnes de 18 ans jusqu'à plus de 100 ans en accompagnement, et bientôt des enfants. Donc on va être bientôt dans des hôpitaux pour enfants et des enfants indiens aussi, puisqu'on suit des orphelins indiens. On va effectivement lancer cette action d'ici fin juin. Eh bien, quand on a fait ce constat, on a considéré qu'il fallait trouver aussi des solutions pour donner à ces personnes isolées les capacités de faire autre chose, quelque chose en plus que ce qui était fait avec l'ami bénévole. Donc on a créé un rêve, c'est-à-dire on a donné l'opportunité à des personnes isolées de réaliser le rêve de leur vie avec le bénévole. Donc c'est un rêve commun avec l'ami bénévole. Donc on a réalisé quasiment plus de 100 rêves aujourd'hui. Et la deuxième activité qu'on a voulu aussi mener à bien, c'était apporter la culture auprès de ces personnes. Donc on fait des sorties culturelles, des animations culturelles. On fait aussi ce qu'on appelle des colloques sur des thèmes très variés. L'idée essentielle étant de remettre ces personnes isolées devant des situations ordinaires. De ce fait, on a, en 2016, on a quasiment touché à peu près 2000 personnes isolées sur l'île et la métropole.
Alors je vais peut-être me tourner vers sœur Marie-Josée, oui. Parce que justement, en lien avec un rêve, vous avez vécu une belle expérience avec d'autres religieuses. Vous pouvez nous en parler ? Qu'est-ce que vous avez vécu grâce à un rêve ?
Oui, c'est-à-dire que nous nous sommes retrouvés à quelques-unes entre la porte de Gand et puis les Bissonnets. Mais on s'est retrouvés en disant, ben oui, on a beaucoup de rêves. Mais bon, eh bien, on s'est retrouvés avec, en disant, ben après tout, si on demandait un voyage en montgolfière. Donc voilà, nous sommes retrouvés à 14 avec les bénévoles. Et nous nous sommes retrouvés avec ce voyage en montgolfière et qu'on en parle encore aujourd'hui, vous voyez. Donc ça nous a marqué énormément. Et puis faire ça ensemble, nous avons fait ça vraiment, on était trois sur les Bissonnets et trois chez nous à la porte de Gand. Et vraiment, nous avons, à chaque fois qu'on se rencontre encore, on en parle encore. Donc vous voyez, ça a marqué vraiment notre... Et puis, être ensemble, vivre quelque chose ensemble.
Et dans le reportage que j'ai pu voir, Jean-Jacques Desrosiers, vous disiez, c'est un projet qu'elles montent. Elles sont actrices.
Enfin, voilà.
T'as un rêve, c'est pas vous qui organisez
surtout
tout.
Surtout pas. De même, quand on fait des sorties culturelles, on n'organise pas tout. On leur laisse effectivement la possibilité de décider, de discuter, de dialoguer. Quand on organise un rêve, comme ce rêve qui est quand même assez exceptionnel, mais on en a fait tout plein, aller visiter, aller rencontrer ses amis d'enfance, par exemple, c'est celui-là, c'est le rêve. Ce rêve m'a fait pleurer, c'est un autre rêve. Voilà. Eh bien, on dit à la personne isolée, aux bénévoles, vous organisez tout. C'est-à-dire, nous, on vous finance les sorties, on trouve le véhicule, on vous accompagne, mais c'est vous qui décidez. Si vous avez des problèmes de santé, vous allez voir votre médecin. Si vous avez des difficultés quelconques, c'est vous qui faites. Prenez-vous en charge, nous on est là que pour réaliser ce rêve et non pas le faire.
Vous accompagnez sur le plan logistique,
bien
quoi,
sûr,
c'est tout.
Et on finance effectivement tout ce qu'il faut pour pouvoir le réaliser, mais on n'est pas là pour le faire à leur place. Donc ils doivent renseigner un dossier, ils font un dossier, ils écrivent effectivement le contenu du rêve, ils font valider par toutes les instances nécessaires, et après seulement on décide de le mettre en œuvre. Donc effectivement c'est redonner à toutes ces personnes isolées les capacités d'être acteurs du monde qui nous entoure. Et ça, c'est essentiel dans notre société aujourd'hui. C'est pas parce que vous êtes dans un centre médicalisé ou quel que soit votre âge, parce qu'on doit prendre soin de vous tous les jours, vous ne pouvez pas décider par vous-même de sortir, voire de faire quelque chose que vous avez envie de faire.
On aura certainement l'occasion de reparler de T'as un rêve, parce que
avec
c'est aussi
plaisir.
Quelque chose de spécifique. Mais on va revenir à notre association initiale qui est un ami. Alors, je vais me tourner peut-être d'abord vers Anne Vernet. Alors, vous, ça fait combien de temps que vous êtes en lien avec l'association T'as un ami ?
Eh bien, ça fait 2 ans et demi à peu près. Voilà, je suis bénévole. Voilà, 2 ans et demi. Et j'adore. Voilà.
Alors vous n'êtes pas seul hein, en lien avec l'association. Ulysse a une part très importante. Alors parlez-nous d'Ulysse. Qui est Ulysse ?
Alors Ulysse est un Shih Tzu, très mignon, tout petit, gentil, adorable, qui n'aboie jamais et avec des grands yeux qui vous regardent. Et c'est vrai que je vais à Saint-Maur toutes les semaines visiter une personne avec Ulysse. Et c'est extraordinaire de voir le sourire de cette personne que je vois depuis quelques mois. Et voilà. Et Ulysse a un travail extraordinaire auprès de cette personne parce que voilà, cette personne parle beaucoup, sourit maintenant et attire aussi Ulysse attire aussi beaucoup d'autres personnes dans cette maison de retraite. Et un jour, nous étions autour d'une table, Ulysse étant sur la table, entouré de, je crois qu'il y avait 8 personnes. Et tout le monde parlait de, chaque personne parlait les uns après les autres, sur leur chien qu'ils avaient dans le temps et tout ça. Et une communication, un échange extraordinaire. Voilà, bon, Ulysse a rempli sa mission. Et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir voir le sourire et les échanges grâce à ce petit chien. Voilà.
Et aujourd'hui, enfin, les gens l'attendent avec impatience, vous me disiez.
Oui. Absolument. Chaque fois que j'arrive, ils viennent tous dire bonjour à Ulysse et entourent la personne que je viens visiter.
Donc ça a permis de créer du lien dans la structure de oui. la personne où vous êtes,
oui.
grâce donc à un chien, grâce à Ulysse. Mmh. Donc on voit les animaux de compagnie sont importants. Vous lui vivez vraiment ça. S'il n'y oui. aurait pas Ulysse, ça ne serait pas la même relation que vous auriez.
Exactement,
eu.
Exactement. Il n'y aurait pas cette même relation et je crois que ce chien remplit vraiment un rôle important et je crois qu'on peut aussi peut-être envisager aussi de visiter les enfants qui sont aussi malades ou des enfants seuls ou des personnes, voilà. Je crois que le chien, l'animal a un rôle, oui, effectivement, oui. Et en tout cas, là, pour moi, oui, énorme. Et je vois l'évolution de cette personne depuis que je viens avec Ulysse, extraordinaire, voilà.
Alors, c'est une personne que vous allez voir tous les combien ? Toutes les semaines ?
Toutes les semaines, oui, oui.
Et vous passez combien de temps avec elle, à peu près ?
Bien, au début, c'était pas très longtemps, un quart d'heure, 20 minutes. Là, maintenant, c'est plus d'une heure. Plus d'une heure, parce que ça me fait mal au cœur de partir. Voilà, donc je reste un peu plus longtemps.
C'est un projet que vous avez, Jean-Jacques Derosio, de développer peut-être ce lien grâce à un animal de compagnie, parce qu'on se rend compte que les gens, dès qu'il y a un animal, ils s'attachent à quelque chose, ça crée un lien.
Ce qui est vrai, effectivement, nous, ce qu'on préconise, c'est que l'ami bénévole, la personne qui accompagne une personne isolée, je rappelle, quel que soit l'âge de la personne isolée, c'est qu'elle puisse aussi se mettre dans une situation normale, de la vie normale. Quelqu'un qui amène un chien, c'est normal. On a aussi des bénévoles qui vont visiter la personne avec leur enfant. On a des bénévoles qui vont aussi visiter la personne avec des tablettes, avec des ordinateurs. Il faut qu'on apporte tout ce qui fait partie de notre quotidien. Trop souvent, on a abandonné effectivement les éléments essentiels d'une vie ordinaire. Et ces personnes, quand elles redécouvrent, par exemple, même une tablette, c'est pas un animal, c'est pas une vie, mais quand un bénévole me disait, moi j'ai ramené ma tablette et j'ai parlé du village d'enfance de la personne et puis sur la tablette on a regardé le village et on a regardé les maisons, on a retrouvé sa maison, on a discuté de ce qu'était le village à l'époque. Mais écoutez, tout ça fait partie de notre vie quotidienne. Il ne faut pas enlever effectivement tous ces éléments dont l'animal en fait partie, mais aussi la famille. On n'est pas fermé quand les relations amicales sont nouées. Eh bien, on peut très bien aussi amener sa femme, ses enfants ou son mari, ses enfants, juste une fois de temps en temps, pour montrer que tout compte fait, cette relation devient une relation d'amitié, tout à fait traditionnelle.
Et qu'il y a donc des ponts, des liens qui se créent entre
voilà.
eux. On ne passe pas une fois par semaine simplement, il y a un lien qui se crée quand
voilà.
même.
Voilà, ce lien se crée, il y a bien sûr beaucoup de l'affection qui peut se créer aussi. Et ce lien, quand il est créé, il faut bien voir que la personne isolée, d'abord, pense beaucoup à son ami bénévole, et ça c'est important quand vous pensez à quelqu'un, même si effectivement ces personnes isolées parfois ont des problèmes de santé et sont amenées bien sûr à décéder, eh bien elles pensent jusqu'à la dernière minute à leur bénévole, et ça c'est important. Et le bénévole aussi a beaucoup d'affection pour la personne qui est suivie, et puis ils ont des relations aussi d'amitié. C'est pour ça que je dirais qu'aujourd'hui, on ne l'a pas dit quand on s'était vu il y a à peu près 2 ans, mais on disait un ami, c'est créer des relations d'amitié. Moi, je pense que c'est encore plus fort aujourd'hui. Moi, je crois que toute personne, quel que soit son âge, quel que soit son handicap, a le droit d'avoir un ami. Voilà.
On va marquer une pause dans cette émission tout à l'heure. Je vous interromps puisque on arrive déjà au terme de cette première partie, mais on va continuer à parler de votre association et puis on se tournera vers sœur Marie-Josée pour qu'elle nous explique aussi sa mission au sein de ces deux EHPAD, comment eh bien elle propose de créer des binômes pour eh bien qu'il y ait des rencontres et des liens qui se créent. À tout de suite.
Toutes les fréquences de votre radio sont disponibles sur rcf.fr.
Tout un monde sur RCF Nord de France, David Mainfroy.
Et nous continuons de parler de l'association T'as un ami avec mes invités, Jean-Jacques Derosio, qui est le président fondateur de cette association, sœur Marie-Josée Pierru et Anne Vernet, accompagnées d'Ulysse, qui sont bénévoles dans l'association T'as un ami. Alors, Anne, vous nous avez parlé voilà, de ce lien qui s'est créé avec Ulysse pour les personnes que vous allez rencontrer du côté de Saint-Maur. Je vais me tourner vers sœur Marie-Josée maintenant. Vous, donc, vous êtes en lien, vous coordonnez un petit peu pour l'association T'as un ami au sein de deux EHPAD pour créer des binômes. Alors, comment ça se passe ?
Oui, donc nous sommes, je ne travaille pas seule, c'est-à-dire on travaille en équipe, c'est avec l'animatrice de chaque maison, avec la psychologue qui est en contact avec les personnes âgées, les aînés, et donc qui fait remonter un peu les besoins des personnes. Et à partir de là, bon, je vois un peu la personne, je discute un peu avec elle, puis petit à petit, il y a la possibilité d'avoir un bénévole. Donc, avec ce qu'elles me disent, je demande pour à l'association d'avoir un bénévole qui correspond un petit peu à ses désirs, à ses besoins. Et donc, nous travaillons comme ça, nous travaillons ensemble pour répondre aux besoins des personnes. Et c'est là l'essentiel, ce qui correspond un peu à leur redonner un peu de joie, de plaisir, de vie avec un binôme, c'est-à-dire avec une amie ou un ami. Et ça, c'est très important dans leur vie d'aujourd'hui.
Et donc, ce sont donc le personnel médical qui vous oriente vers des personnes qui vous disent « Tiens, peut-être cette personne aurait besoin d'être soutenue par un ami, c'est un
petit
peu ça ?»
Oui, c'est surtout l'animatrice. L'animatrice qui a un rôle quand même plus important, qui est étendu sur, qui s'occupe de l'animation, donc qui a un regard sur l'ensemble, et donc qui fait remonter. C'est plus un peu comme ça.
Et vous, donc, vous êtes en lien avec l'association et vous dites, on aurait besoin de tel profil de personnes aujourd'hui dans la structure.
Voilà. Oui.
C'est un peu votre rôle.
Et c'est un peu le rôle. Et puis après, donc, de pouvoir suivre les bénévoles. Qu'ils ne sont pas, ils ne restent pas seuls comme ça, mais en les rencontrant et en parlant avec eux. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut faire une équipe, disons, de personnes qui répondent aux besoins.
Jean-Jacques de Rosio, ce rôle que joue sœur Marie-Josée, vous avez beaucoup de personnes qui le jouent aujourd'hui.
Alors il faut voir que dès que nous ouvrons une ville ou un centre médicalisé, nous nommons une personne responsable de ce centre qui est là pour coordonner l'ensemble des actions de Tain Ami. Alors les actions, c'est quoi? C'est se mettre en contact avec le personnel médical et paramédical, détecter les personnes grâce à ce personnel qui sont dans un isolement. Alors tout à l'heure on disait l'animatrice est importante parce que les gens qui ne vont pas aux animations sont des gens isolés déjà. Donc c'est naturellement, il faut faire quelque chose. Donc ces personnes effectivement sont là pour coordonner et surtout avoir un contact avec le bénévole. Le bénévole n'est jamais seul, il peut toujours appeler le responsable du centre médicalisé à tout moment, bon, pour pouvoir effectivement avoir réponse à ces questions. Donc aujourd'hui, on est, quand je vous disais effectivement, on est présent dans plusieurs villes françaises, mais dans les villes du Nord-Pas-de-Calais qu'on veut aussi développer. Dès qu'on développe une ville, on veut un équivalent de sœur Marie-Josée, bien sûr. C'est une personne qui passe une demi-journée, une journée par semaine pour coordonner l'ensemble des actions et amener effectivement un nombre de bénévoles pour pouvoir dynamiser effectivement toutes les actions auprès du centre médicalisé.
On va peut-être parler justement maintenant du rôle de ces bénévoles, puisque vous avez des demandes, mais vous avez besoin aussi encore de bénévoles pour pouvoir répondre à ces demandes. Alors, les bénévoles de Tain Ami, qui sont-ils ? Tout le monde peut être bénévole au sein de l'association ?
Alors aujourd'hui, on peut être bénévole à partir de 16 ans, et notre bénévole plus âgé a 88 ans. Donc vous voyez, donc 16 ans avec l'accord parental, quand quelqu'un est vraiment... a vraiment envie de faire du bénévolat auprès des personnes isolées. Alors, il faut d'abord suivre une formation. Cette formation est essentielle parce que, d'abord, elle présente l'association Tain Ami, mais elle présente aussi toutes les modalités de comportement auprès d'une personne isolée. Ça paraît simple, mais il faut travailler aussi sur ces aspects. Par exemple, une personne isolée, il ne faut pas tutoyer une personne isolée, il faut vous voyez. Mais aussi, il ne faut pas entrer dans le piège où tout devient souffrant. C'est-à-dire, lorsqu'on suit une personne isolée, on n'est ni son papa, ni sa maman, ni un membre de la famille. Il faut prendre de la distance parce que l'isolement est souvent lié à une maladie, voire à une souffrance particulière. Donc voilà, donc tout ça s'apprend. Et après, bien sûr, la personne qui est responsable du centre médicalisé de ton ami est là aussi pour aider à tout moment, parce que nous avons aussi des décès, hein, bien sûr, ça fait partie aussi de ce que nous vivons. Et tout ça doit aussi s'apprendre. Et ces formations se passent très bien, et c'est là où on détecte que la personne a toutes les capacités pour l'être. Si vous avez du cœur, si vous voulez devenir bénévole, c'est possible. Mais bien sûr, un point essentiel, on ne peut pas effectivement vivre une souffrance personnelle trop forte et vouloir accompagner les autres. Ça, c'est pas toujours compatible. Il faut effectivement bien sélectionner nos bénévoles.
Et alors, quand on s'engage comme bénévole avec un ami, on a besoin d'avoir une formation particulière, des connaissances particulières? Comment ça se passe?
On a beaucoup de bénévoles de tous les âges. Alors, on a surtout des bénévoles qui ne sont pas à la retraite pour devenir habits bénévoles. Mais par contre, on a aussi beaucoup de bénévoles qui ouvrent des villes, mais qui sont à la retraite. Si vous êtes retraité, c'est peut-être un appel. Si vous avez envie d'ouvrir un ami à Roubaix, Tourcoing, là, nous ne sommes pas encore très implantés, même si on a des centres, ou voir dans une ville du Nord-Pas-de-Calais, eh bien, on vous forme et vous accompagne. Par contre, nos bénévoles sont de tous âges. Je vous dis, on a des bénévoles de 16 ans qui sont tout à fait à même d'accompagner une personne dans un isolement total. Donc ça dépend un peu de la personne, du cœur qu'elle peut avoir, mais beaucoup de personnes ont du cœur, mais aussi d'une forme de robustesse physique. Il faut quand même être robuste physiquement et psychologiquement pour pouvoir effectivement accompagner ces personnes. Mais c'est très simple. Si vous avez du cœur, vous pouvez adhérer à l'association pour devenir bénévole.
Et donc ce ne sont pas forcément des retraités que vous avez dans l'association aujourd'hui?
Essentiellement, ce sont des gens de moins de 35-40 ans.
Ce qui est un peu une surprise, on pourrait être surpris de cela.
Bien sûr, et beaucoup de jeunes nous ont rejoints. Ça fait à peu près, je crois que c'est 65% des gens moins de 35 ans, ce qui est quand même... Par contre, je vous disais, ceux qui accompagnent comme Marie-Josée pour développer un centre médicalisé, on préfère des gens à la retraite, qui sont solides, voilà, qui sont rodés à la vie, voilà. Mais nos jeunes, on a beaucoup de jeunes de tous les âges, et c'est ce qu'on a souhaité faire lorsqu'on a démarré l'association. Mais un jeune s'éclate, s'épanouit, entre guillemets, parce que justement, il apporte à la personne isolée, mais il se découvre aussi lui-même. Et vous savez, le plaisir que nous apportons aussi à ces bénévoles, et qu'ils nous apportent aussi au sein de l'association, eh bien, c'est très important, parce que c'est souvent leur première action de bénévolat. Et ça, c'est vraiment essentiel pour leur vie de demain. Nous sommes dans une société où nous avons besoin de bénévoles, aujourd'hui et demain aussi encore plus. Chez nous, c'est-à-dire chez ton ami, mais aussi dans d'autres associations. Donc peut-être ces jeunes qui sont amenés à bouger, parce qu'aujourd'hui on est très mobile quand on est jeune, vont peut-être être chez ton ami dans une autre ville, voire dans une autre association, et ça c'est superbe.
Et ces bénévoles se rencontrent régulièrement? Vous avez des temps de rencontre entre bénévoles?
Oui, alors on organise régulièrement généralement c'est soit un déjeuner, soit un dîner, un pot, voilà. On rencontre les bénévoles. Là c'est pour des réunions un peu plus grandes, avec plus de personnes. Ben, il y aura une réunion au mois de juin, par exemple. Mais aussi les responsables de site ont pour objectif d'organiser des petites rencontres avec l'ensemble des bénévoles pour faire rencontrer les bénévoles et faire parler les bénévoles entre eux. Parce que je crois que c'est important aussi de se faire un réseau d'amitié entre bénévoles. Tout ça est lié. C'est-à-dire, on n'est pas là que pour accompagner une personne isolée. On est là aussi pour former des réseaux d'amitié entre bénévoles. Et ça, c'est important parce que, on le voit aujourd'hui, on a vraiment un bon réseau où les gens s'entendent bien, et c'est déjà un élément essentiel pour le développement de l'association.
Anne, vous confirmez, c'est important ces temps de rencontre que vous pouvez avoir entre bénévoles?
Oh oui, absolument, absolument, vraiment, c'est essentiel, c'est très important, oui, vraiment les échanges, les expériences, tout. Voilà, c'est important de se rencontrer régulièrement et d'échanger, oui, vraiment.
Et vous échangez sur quoi? Sur votre vécu, sur ce lien que vous pouvez avoir avec
une personne? Oui, sur les expériences, sur tout ce qu'on peut vivre, que ça doit être positif ou pas. On peut aussi poser des questions, avoir un doute. Donc c'est important d'échanger et d'en parler, oui, absolument.
On arrive au terme de cette émission déjà, Jean-Jacques Derosio. Quels sont, là, donc voilà, 2 ans après, vous venez nous faire un petit peu un bilan du développement de T'as un ami. On voit que c'est une association qui grandit. Vous avez d'ailleurs reçu un prix il n'y a pas très très longtemps aussi, on peut le signaler. Quels sont maintenant les projets pour peut-être pour dans 2 ans, 3 ans, 5 ans de T'as un ami?
Alors notre rêve, faut rêver à de grandes choses pour en faire de grandes. Nous, ce qu'on aimerait chez T'as un ami, c'est que chaque centre médicalisé puisse bénéficier des actions de T'as un ami, c'est-à-dire qu'il y ait une personne qui arrive dans l'association pour organiser, comme Sœur Marie-Josée, ce qui se passe dans le centre médicalisé avec quelques bénévoles. Et je peux vous dire que dans de nombreux centres médicalisés, il n'y a pas de bénévoles. Donc c'est vraiment développer ces centres pour leur apporter un peu de bonheur, parce qu'il y a de la solitude dans ces centres. Ça, c'est vraiment notre rêve, c'est de développer un maximum de présence de T'as un ami, essaimer les valeurs de T'as un ami auprès de nombreux centres médicalisés, mais de nombreuses villes sur le Nord-Pas-de-Calais, bien sûr, et peut-être en France, puisqu'on développe aussi en France. Ça, c'est le point essentiel. Et puis, bien sûr, on a besoin toujours de bénévoles. On ne peut pas imaginer, mais aujourd'hui, la solitude croît avec le temps, et c'est désespérant. C'est-à-dire, on a l'impression que plus on avance, plus il y a de solitude. Alors, lié, vous le comprenez, aux problématiques financières, on ne peut plus financer comme avant. Toutes les activités.
Voilà, donc en tous les cas, si on veut plus d'informations, que ce soit sur le plan du bénévole ou même pour être peut-être accompagné par l'association, si on est une structure, un EHPAD, qui serait intéressé par l'accompagnement de T'as un ami, on s'en sort sur votre site internet, hein, tout simplement, t'asunami.fr, et on aura toutes les informations, différents formulaires à remplir, et puis vous reprendrez contact avec eux. En tout cas, merci à vous trois.
Merci beaucoup.
D'être venus nous parler de l'association T'as un ami. Et puis,
merci.
Sur RCF, on dit la joie se partage. Ben vous, c'est cette joie que vous partagez, cette joie de la rencontre, en tous les cas, que vous faites avec ces différentes personnes. Merci à vous trois. Merci.